Mémoire vive,
présentée par Eve Cheftel,
préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Alain de Toledo, bonjour.
Bonjour.
Vous avez longtemps enseigné l'économie à l'Université de Paris 8, mais aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est votre activité de militant de la mémoire, et plus particulièrement de la mémoire de la communauté judéo-espagnole originaire des Balkans. Une communauté qui, à Paris, s'était installée principalement dans le 11e arrondissement et qui a payé un très lourd tribut pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous avez ainsi fondé l'association Nuestros Desaparecidos, je ne sais pas si je prononce bien.
Très bien.
Avec ce projet de documenter l'histoire des 5300 judéo-espagnols déportés de France et de remettre cette histoire dans son contexte plus large. Le 6 novembre prochain, à l'occasion de la date anniversaire de la grande rafle des Juifs grecs à Paris, vous allez inaugurer une exposition sur des parcours de judéo-espagnols de 1492 à 1942, notez l'anagramme, donc depuis l'expulsion d'Espagne jusqu'à la déportation. Cette exposition, on pourra la voir dans une salle de la mairie du 11e, la salle Olympe de Gouges, et bien sûr, nous invitons nos auditeurs à s'y rendre. Il y aura ensuite un livre, un mémorial des judéo-espagnols, qui sortira un peu plus tard, et qui a été conçu pour faire véritablement référence sur le sujet. Alain de Toledo, peut-être pour commencer, pouvez-vous nous dire un mot de cette journée là du 6 novembre, peut-être nous confirmer la présence de certaines personnalités qui ont participé au projet.
Oui, bien sûr. Donc effectivement, cet après-midi du 6 novembre sera consacré au thème de la déportation des judéo-espagnols de France et nous aurons une série de conférences. Ensuite, nous aurons aussi ce qu'on appelait un moment musical avec un groupe venant de Turquie, le Pacharo Sephardi, pour montrer que, bon, bien qu'elle ait beaucoup souffert, la culture judéo-espagnole existe encore. Et le deuxième versant de cette culture, c'est le buffet avec les borecas qui font toujours amener une larme à l'œil de tous les judéo-espagnols dès qu'on prononce ce mot. Je voudrais juste préciser par rapport à votre introduction que l'on ne vient pas comme ça à la mairie du 11e, il faut s'inscrire surtout.
D'accord.
Pour des mesures de sécurité, n'est-ce pas? On va filtrer les gens, il y aura beaucoup de mesures de sécurité parce que, alors évidemment, comme vous l'avez dit, il y aura un certain nombre de personnalités. Les grandes institutions juives seront présentes, la Fondation, bien évidemment, le Mémorial de la Shoah, qui nous a beaucoup aidés dès le départ. C'est un véritable partenariat que nous avons avec le mémorial. Nous avons travaillé en faisant des interviews, des entretiens, en recueillant des documents, des photos, des documents administratifs. Tout est déposé au mémorial. Donc c'est un véritable partenariat. Le grand rabbin de France nous a assuré de sa présence, le président du consistoire, le président du CRIF, donc de très nombreuses personnalités.
Par exemple, quand vous dites de personnalités du monde de la culture, est-ce que vous pouvez nous citer?
Alors, on aura aussi des ambassadeurs. Et puis, deux personnes dont je tiens à saluer la présence, parce que c'est pour nous quelque chose de très important. D'une part, venant d'Espagne, Guillermo Roland, qui est le fils du consul Bernardo Roland, qui a sauvé des centaines de judéo-espagnols, et également...
Dont votre propre père, hein, je crois que ça.
Dont mon propre père, je vois que vous connaissez bien l'histoire.
Nissim de Toledo, votre père, qui a été raflé en décembre 41, sauvé grâce à l'intervention du consul
Absolument.
Guillermo Roland.
Et de même, la petite fille, cette fois-ci, du consul de Grèce, le consul Radigales, qui lui en Grèce a fait le même travail, a aussi sauvé des centaines de personnes. Donc voilà un petit peu Bon, on ne va pas rentrer dans toute la liste des personnes présentes.
J'avais noté simplement qu'il y avait l'écrivain Marcel Cohen qui serait
absolument
présent, je ne sais pas.
Oui, il a
nous avons reçu ici.
Il a confirmé sa présence, bien sûr.
Dont la famille était originaire d'Istanbul, je crois.
Absolument, et donc nous sommes très honorés par cette présence. Et on est en train de voir avec lui s'il pourrait nous dire un petit mot en judéo-espagnol ce jour-là.
D'accord. Est-ce que vous pouvez revenir pour nos auditeurs à la genèse de ce projet ? Alors, quand je dis ce projet, c'est aussi bien l'exposition que le livre, puisque c'est aussi le livre que l'on attend, que les judéo-espagnols attendent avec impatience.
Bien sûr. Alors, la genèse, effectivement, c'est... toujours le consul Roland, puisqu'il a sauvé ma famille, mon père d'un côté, ma mère de l'autre. Ils ne se connaissaient pas à l'époque. Ils sont d'ailleurs, c'est une petite anecdote personnelle, ils se sont rencontrés dans le train qui les a conduits en Espagne.
Donc vous lui devez la vie à tous les petits trains, ouais, c'est ça.
Au carré.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et en rangeant les dossiers de mon père, j'ai retrouvé ce qu'on appelle un Ausweis. Un permis de sortir du camp de Compiègne, où il était depuis décembre 41, et il est sorti le 12 mars 42, c'est-à-dire 15 jours avant le départ du premier convoi. Ce qui m'a surpris, c'était qu'effectivement, ce document allemand était signé par un consul espagnol. Je ne connaissais rien de cette histoire, comme beaucoup de gens de ma génération nés après la guerre, il n'y a pas eu beaucoup de transmission. Et donc, petit à petit, j'ai cherché pourquoi ce consul, qu'est-ce qu'il avait fait, etc. J'ai entrepris des démarches pour lui faire obtenir la médaille des justes de Yad Vashem. Le dossier, pour l'instant, n'a pas abouti. Mais enfin, voilà, ça m'a amené à creuser.
Vous pouvez en profiter pour lancer d'ailleurs un appel à témoins auprès de nos auditeurs.
Oui, bien sûr, tous les témoins, malheureusement, il n'y en a plus beaucoup de l'époque, sont les bienvenus, puisqu'il faut déposer des témoignages en faveur du consul pour lui faire obtenir cette médaille. Et donc, à un moment, je me suis aperçu que moi-même, je connaissais très peu cette histoire. Je connaissais un peu l'histoire de ma famille, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était l'histoire de toute une communauté. Et également que finalement, c'était une histoire peu connue du public juif en général et du grand public encore moins, bien évidemment. En fait, on parle de l'association Muestros des Aparicides, qui effectivement a été créée en 2010, mais cette association...
Qui veut dire donc...
Nos disparus.
Nos disparus.
Nos disparus.
Donc créé en 2010.
Créé en 2010 et qui est un mot judéo-espagnol. Par exemple, quand je rencontre des castillans, ils me disent « Ah mais non, vous avez fait une erreur, c'est nuestros ». Je leur dis « Non, non, c'est bien muestros ». Voilà, c'est les petites
choses. Les débats sémantiques, les petites...
Voilà. Et donc, qui en fait regroupe cette association judéo-espagnole. Je dirais que Muestros des Aparicidos en tant qu'association elle-même n'a comme adhérent que des associations. Il n'y a pas d'adhérent individuel. C'est une petite précision. Il y a des associations que vous connaissez bien, comme Aquí Estamos, l'USF, Alciet et Vidas Largas, bien sûr, le professeur Jaime Vidal Sefira et notre président d'honneur. Voilà. Toutes les associations font partie du conseil d'administration. Donc à partir de là, je vous l'ai dit, on a commencé les entretiens. On a réalisé à ce jour plus de 80 entretiens, dont 5 ou 6 déportés encore en vie. Ce qui est absolument extraordinaire et ce qui est totalement bouleversant, bien évidemment.
Donc là, on est bien d'accord, c'est des entretiens avec des personnes issues de la communauté judéo-espagnole. En France, qui résidait en France
Voilà, donc qui était...
Dans les années 30, avant la guerre ou...
Voilà, absolument.
Parce que je pense que, pour nos auditeurs, c'est très vaste, en fait. Hein, sous le vocable judéo-espagnol, on met aussi bien des juifs turcs que des juifs thessaloniques, etc.
Voilà, je vais préciser tout ça, parce que effectivement, si je puis m'exprimer un peu de manière populaire, c'est un vrai bazar. C'est bien adapté d'ailleurs
D'accord.
à la situation. Donc, des Judéos espagnols qui étaient en France juste avant la guerre et pendant la guerre, bien sûr. Bon, à l'exception notable du professeur Sefira dont j'ai parlé, qui lui était en Belgique. Donc ça nous a donné aussi un petit peu une connaissance de ce qui s'est passé en Belgique. Donc des gens qui à l'origine venaient de Grèce, de Turquie, dans les frontières actuelles, puisque là aussi, comme pour la Pologne ou d'autres pays, les frontières ont beaucoup bougé. Donc disons, pour aller très vite, l'ex-Empire ottoman, dans sa version du sud de la Méditerranée, avec la Yougoslavie, la Bulgarie, la Grèce, la Turquie, un petit peu aussi Liban, Égypte et Palestine de l'époque. Voilà, donc installé en France. Et alors, on dit juif grec. Là, les choses commencent à se compliquer, par exemple, parce que certains sont nés en Grèce avec un passeport grec, mais d'autres sont nés en Grèce et ont un passeport espagnol, ce qui est par exemple le cas de ma mère. Il y a un mélange de beaucoup de choses, et ces choses qui au départ pouvaient paraître un détail se sont révélées pendant la guerre de la plus grande importance. J'ai interviewé quelqu'un qui m'expliquait que son père était issu d'une fratrie de 5 personnes et les 5 avaient des nationalités différentes.
D'accord.
Voilà, donc la complexité des choses.
Ça leur donnait à chacun un statut différent par rapport aux autorités françaises.
Surtout allemandes.
Allemandes, d'accord.
Allemandes. Parce que,
et des possibilités d'intervention et de sauvetage différentes, c'est ça, en fonction des passeports.
Tout à fait, d'accord. Tout à fait, parce que effectivement, donc on a commencé par des entretiens, tout ça, et puis on s'est adjoint toute une équipe d'historiens pour bien encadrer le côté historique des choses, ne pas faire d'erreurs. Et ils nous ont fait comprendre que les Allemands les nazis, je préférais dire, ne déportaient pas des judéo-espagnols en tant que tels, mais avaient une politique par nationalité.
D'accord.
Donc, ils déportaient des juifs grecs, ils déportaient des juifs turcs, ceux-là en fonction des relations diplomatiques ou des moments historiques. Par exemple, on a parlé de la grande rafle de novembre 42 des juifs grecs. C'est au moment où l'armée allemande a envahi la Grèce. Donc, effectivement, à partir de ce moment-là, il n'y avait plus de gouvernement et les Allemands se sentaient les mains libres.
D'accord.
Pour la Turquie, qui était un pays, entre guillemets, neutre, les choses étaient beaucoup plus compliquées. Ça dépendait des relations. Si vous le souhaitez, on peut rentrer dans les détails, mais vous avez peut-être d'autres questions avant.
Non, je notais simplement que la journée du 6 novembre là, aura lieu place Léon Blum,
oui.
Dans le 11e arrondissement, qui est à côté finalement du quartier de la Roquette, où a eu lieu la fameuse rafle du 20 août 1941.
Absolument.
Quartier qui était surnommé à l'époque la Petite Turquie.
La Petite Turquie.
Peut-être qu'on peut aussi revenir sur cette rafle parce qu'elle est assez importante.
Oui, alors ça c'est bon, évidemment une rafle extrêmement importante, mais qui ne rentre pas dans ce que l'on a dit précédemment parce qu'à ce moment-là, c'était entre guillemets une rafle indéterminée. C'est-à-dire qu'ils raflaient tout le monde,
d'accord.
Ils ont bouclé le quartier, tout ce qui...
Pas en fonction de la nationalité.
Alors justement, ça a provoqué des réactions des pays dits neutres, Espagne, Turquie, Portugal, ou alliés comme l'Italie. Donc à ce moment-là, tous les consuls ont réagi en disant « mais nous, par exemple, j'ai des lettres du consul espagnol, puisque c'est plutôt cette partie sur laquelle, à titre personnel, j'ai travaillé, disant « mais... notre pays ne fait pas de distinction de race ou de religion, donc vous n'avez aucune raison d'arrêter des ressortissants espagnols. » Donc un certain nombre ont été libérés à ce moment-là, sous pression des gouvernements des pays neutres, qui, en même temps, bien sûr, était une très très bonne chose et a eu un effet un peu négatif parce qu'un certain nombre de personnes arrêtées se sont dites « Ah ben vous voyez, ils libèrent, les Turcs sont libérés, donc on va être libérés bientôt » et malheureusement, certaines personnes n'ont pas été libérées et ont été envoyées directement à Auschwitz. Les trois grands pays d'origine qui étaient Turquie, Grèce, Bulgarie, il y en avait d'autres, mais la grande masse venait de là. Donc la Grèce s'est effondrée en fin 41. Donc ils avaient d'abord réussi à chasser les Italiens, et puis après les Allemands sont venus au secours des Italiens. Et donc là, il n'y avait plus aucune protection des Juifs qui avaient la nationalité grecque. Et ça a été ce qu'on appelle le convoi 44, hein, des Juifs grecs, le seul convoi où, pour aller vite, les séfarades étaient majoritaires dans le convoi, 900 sur 1200. Quoi. Donc c'est le seul convoi. La Bulgarie, c'était un pays allié avec l'Allemagne, mais la Bulgarie a une attitude un peu spéciale, si on peut dire. Le roi de Bulgarie a protégé ses Juifs à l'intérieur des frontières, mais pas à l'extérieur. Donc, aussi, ont été raflés un peu plus tard. Et la Turquie, là aussi, c'est très compliqué. Donc, pays neutre. Mais très rapidement, en 1943, les Allemands ont posé un ultimatum disant « soit vous rapatriez vos Juifs, soit ils sont déportables ». Alors, il y avait déjà un certain nombre de Juifs qui avaient été déportés, turcs, mais dont le consulat ne reconnaissait pas les papiers. Pour X raisons, les papiers étaient considérés comme n'étant pas en règle, et donc ils n'avaient pas eu la protection du consulat. Ceux dont les papiers étaient considérés en règle ont été, d'une part, libérés. J'ai un oncle qui a été arrêté deux fois à Drancy avec sa femme. Ils ont tous les deux été deux fois à Drancy. Et en 44, début 44, ils sont repartis en Turquie. Donc il y a eu, je crois, là, je vous parle de mémoire, six convois de personnes qui ont pu aller en Turquie en 44. Voilà, donc ça, c'est les pays dont venaient les judéo-espagnols. Alors, par ailleurs, il y a des pays dont les judéo-espagnols avaient la nationalité, bien que, si je puis dire, ils n'y aient jamais mis les pieds. L'Espagne, le Portugal, certains pays d'Amérique latine aussi. Là, je parle un peu de ma famille, parce que je connais ce que je connais le mieux. J'avais un oncle qui avait un passeport du Costa Rica. Bon, je ne pense pas qu'il y ait jamais mis les pieds. Voilà, donc en fonction des pays et de leur relation avec l'Allemagne, certains ont pu être protégés. Petite minorité, hein, quand même.
D'accord. Et vous parlez aussi, dans votre livre, des réseaux d'entraide, en fait, pour les judéo-espagnols. Alors là, c'était aussi en fonction de la nationalité ou c'était selon d'autres critères
Non, là, c'était les réseaux d'entraide juifs, l'OSE, etc.
D'accord, les éclaireurs israélites.
Les éclaireurs israélites.
Il y a des figures importantes d'ailleurs, judéo-espagnoles.
Absolument.
Au sein des EI.
Alors, justement, ça, c'est une partie de l'ouvrage qui s'est rajoutée, puisque, au départ, on était sur la déportation, la Shoah. Et je vous dis, le point de départ, c'était de dire, on parle quand même très peu des judéo-espagnols quand on parle de la déportation. Et en travaillant, on s'est dit, on parle aussi très peu des judéo-espagnols dans la résistance.
C'est vrai.
Et effectivement, là aussi, moi-même, je connaissais très très mal cette histoire. Et donc, il y a plusieurs personnes, des historiens qui se sont mis sur le sujet, qui ont découvert beaucoup de choses. Les éclaireurs israélites, la 6e section, il y avait plusieurs figures judéo-espagnoles. J'en citerai deux comme ça, mais on peut en citer beaucoup. Eddie Florentin, qui était le surnom de Flamand. Sabi Soulam, voilà.
D'accord. Oui, parce qu'il y a des patronymes qui ne trompent pas, mais pour d'autres, c'est plus difficile.
Absolument. Oui, alors, plusieurs choses. D'abord, effectivement, sans le mémorial de Clarsfeld, on n'aurait rien pu faire. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que c'est un état le plus complet d'informations sur la déportation. Et d'autre part, parce que son dernier travail a amené une information qui n'existait pas dans le premier mémorial, qui est qu'il a récolté les adresses des parents. Donc ça va permettre de répondre en partie à votre question, en précisant d'abord que quand on dit, vous avez prononcé le mot de liste précise, non, elle est imprécise parce que forcément, vu la difficulté, il y a certainement beaucoup de manques, beaucoup d'erreurs, et c'est aussi l'occasion à travers ce livre de provoquer des réactions des lecteurs qui nous donneront des informations.
C'est-à-dire que vous n'avez pas encore identifié les 5300...
Si, les 5300, c'est ce que nous avons identifié.
D'accord.
Mais
ça veut dire qu'il peut en avoir d'autres, d'accord.
Je vais reprendre votre question. Quand on a un monsieur Gattegno né à Salonique, on n'a pas beaucoup de doutes.
Pas beaucoup de doutes, oui.
Voilà. Quand on a un monsieur Cohen né à Paris, a priori, on ne sait pas. Donc la méthodologie, c'était de voir s'il était dans une famille Cohen, dont le parent venait de Salonique, d'Istanbul, d'Edirne, d'Izmir, etc. À ce moment-là, si on peut dire que le père est judéo-espagnol, on a mis le fils aussi dans les judéo-espagnols. Mais évidemment, il y a des centaines de Cohen dont on ne sait pas d'où ils viennent, et donc on n'a pas pu les mettre. C'est un exemple, il y en a plusieurs, hein, bien sûr.
Merci Alain de Toledo. Voilà, vous avez accompli un travail très important. Nous sommes impatients d'en voir le résultat. Le livre paraîtra sans doute plutôt en début d'année prochaine. Vous avez déjà
En fin d'année,
d'accord. En attendant, j'invite les auditeurs donc à se rendre le 6 novembre prochain à la mairie. Donc pensez à vous inscrire.
Oui, alors est-ce qu'on peut donner l'adresse mail au moins?
Oui, allez-y, je vous en prie.
Donc, muestros.desaparecidos@gmail.com. Alors, muestros, M-U-S-T-R-O-S, point D-E-Z-A-P-A-R-E-S-I-D-O-S, @gmail.com, ou par lettre 47 Boulevard Voltaire.
Très bien, puis on l'indiquera également nous sur le site. Voilà, donc je précise simplement que le 6 novembre aura également lieu au Mémorial de la Shoah une journée consacrée à l'histoire des convois. Pour les auditeurs qui seraient également intéressés, c'était Mémoire Vive. Deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.